Le masque et la plume. Bonsoir à tous, y compris les nombreux automobilistes coincés dans les retours de ce week-end prolongé. Bienvenue à Cannes en direct du Palais des Festivals pour une émission spéciale, vous le savez, consacrée jusqu'à 21h au palmarès de la 70e édition du Festival de Cannes avec les fêtards de la critique Eva Bétan de France Inter, Sophie Avon de Sud-Ouest, Daniel Eman de Marianne, Michel Simon de Positif et Xavier Le Herpeur de 7e Obsession. Ils vont nous aider, vous aider à comprendre les enjeux, les choix et les secrets de ce palmarès. Et je remercie notre partenaire d'un soir, Canal+, qui nous permet de retransmettre les discours des heureux lauréats. Il y avait, je le rappelle vite, 19 films en compétition cette année dans la sélection officielle, dont 4 Français, signés Robin Campillo, à qui on promet le meilleur dans 120 battements par minute, Jacques Doyon, Michel Hazanavicius et François Ozon, 19 films soumis, je le rappelle également, au jugement d'un jury présidé par le fantasque Pedro Almodovar et qui compte les cinéastes Marenade, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino, les comédiennes Jessica Chastain, Fan Bingbing, Agnès Jaoui, l'acteur Will Smith et le compositeur Gabriel Yared. Bref, 19 films qui guigne d'autant plus la Palme d'Or qu'elle est cette année exceptionnellement incrustée, comme Daniel Eman, 267 diamants. Mais la soirée ne fait que commencer. Je vous le rappelle, vous êtes bien sûr France Inter en direct du Festival de Cannes. Et on commence avec la Caméra d'Or, dont le jury est présidé par Sandrine Kiberlain et qui récompense un premier film issu de la sélection officielle ou de la quinzaine ou de la semaine de la critique. Et les résultats, Eva?
Alors, la Caméra d'Or revient à un film français qui s'appelle Jeune femme, réalisé par Léonore Serrail. C'est l'histoire d'une jeune femme qui revient à Paris après avoir été mise dehors par son petit ami. Elle habite chez des copains et elle doit se débrouiller. Et la réalisatrice était enceinte quand elle a fait le film et elle a dit qu'elle a fait peu d'argent et beaucoup d'enthousiasme et qu'elle espérait que l'enfant qui naîtrait aurait du cran et de l'humour et le sens de l'humain. Il y a Christian Mounjou qui présidait le jury des courts-métrages de la Ciné Fondation, deux prix des courts-métrages. Il a dit qu'ils ont voulu primer des belles histoires mais aussi des films qui étaient audacieux. Et nous avons donc un film finlandais, Kato, de je vais essayer de pas estropier son nom, de Lepo Airakinen.
Très bien dit.
C'est à peu près ça. Un film chinois, lui, à la Palme d'Or. Il s'appelle Une nuit douce de Qiu Yang. C'est dans une petite ville chinoise. Une mère cherche sa fille disparue.
Qui a vu la Caméra d'Or, Xavier? Qui était un film donc qui était à la quinzaine ou
qui était un certain regard.
Un certain regard.
Oui, j'ai vu Jeune femme. C'est un film plein d'énergie, indiscutablement, porté aussi par le charme très vitupérant de son actrice principale, Laetitia Doche. Voilà, c'est un peu dans la continuité, j'allais dire, de Divine. C'est-à-dire, les femmes prennent la caméra, elles ont vraiment quelque chose à raconter. C'est du social. Elle est dans Paris. Il y a énormément d'humour. C'est très bavard. C'est peut-être pas la Caméra d'Or la plus cinématographique au sens de la mise en scène, peut-être dans les candidat potentiel et sérieux. Il y avait un Russe magnifique à un certain regard, petit paysan à la semaine. Mais voilà, c'est un portrait de femme, c'est un portrait de femme dans l'énergie, c'est un portrait de femme dans la lutte, dans la résistance, dans l'humour, dans la dérision. Et je trouve qu'après Divine, on continue effectivement de montrer que le cinéma féminin a un ADN particulier, un regard sur le monde particulier. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'en plus, je pense qu'il y a un vrai succès public potentiel quand le film sortira. Il est très amusant, il est très drôle, le dialogue est extrêmement virulent, très amusant.
Et donc, il sortira à la rentrée, j'imagine.
Il sortira à la rentrée, je pense que là, effectivement, avec ce prix-là, ils vont essayer de le placer assez vite. Mais voilà, félicitations à Sandrine Berlin, qui, avec son jury, Reda Kateb, Joachim Lafosse, a réussi effectivement à choper quelque chose de l'air du temps, mais avec une vraie personnalité pour autant.
Question annexe à tous les critiques d'ailleurs du masque, c'est qu'il n'y avait pas de premier film en compétition officielle cette année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de premier film en compétition. J'ai l'impression que c'est devenu l'apanage des sections parallèles. C'est un peu regrettable, non?
C'est vraiment l'ADN de la semaine de la critique, c'est premier et deuxième film. Donc on est sûr d'avoir des premiers films.
Ce qui est embêtant, c'est quand on prend un premier film, il risque d'avoir la Palme d'Or, Sexe, mensonge et vidéo.
Oui, 89.
Il y a un moment, oui, mais c'est pas arrivé, ça.
Bon, alors, on a vu, évidemment, réussi à Cannes monter les ce qu'on pourrait considérer comme les possibles lauréats de ce palmarès de l'édition 2017 ou 70e édition. Est-ce qu'on peut déjà à l'heure, c'est-à-dire à 19h35, se dire que notre seul Français sur les quatre qui étaient présentés, c'est-à-dire Robin Campillo, je le rappelle aussi, en compétition officielle, a vraiment une bonne chance dans quelques, disons quoi, 20 minutes, 25 minutes, d'obtenir un grand prix.
Moi, je pense qu'il y a une chance d'avoir un prix important, parce que quand on voit entre qui, entre quel metteur en scène cela va se jouer, le paradoxe, c'est un film qui parle de la mort, parce que c'est les années où le sida sont une hécatombe, mais je veux en arriver à dire que c'est un film qui a une force, il y a une force de vie, parce que des gens sont dans le combat. C'est un film aussi sur le militantisme d'une certaine manière politique. Et les autres films sont des fables que nous prenons, on en reparlera, les autres films possibles, Ruzia Gintiev, Oslund, le suédois, le grec, l'antimo, c'est des sortes de fables sur une sorte de déshumanisation en quelque sorte, je généralise de notre monde actuel. Paradoxalement, c'est le film le plus vivant, c'est celui qui parle de la possibilité de la mort. Et puis, et donc il tranche avec les autres en ça.
Et puis c'est vrai que ça faisait aussi longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film français récompensé. Enfin, si on.
Oh, quand même, les dernières années ont été bien.
Hein. Pas de palme, mais pas de grand prix.
Il y a eu Kichiche, il y a eu Audiard, et il y a eu Canté dans les années 2010. Ça fait beaucoup, dans les années 2010. Alors qu'auparavant, ça datait de 1987, sous le soleil de Satan. Au contraire, ça revient bien. Hein.
Vos impressions générales sur ce festival 2017, Xavier?
Ah, ça y est, c'est moi qui commence, c'est moi qui ouvre le jeu. Douloureuse, vraiment. C'est une année, moi, là, en tout cas en termes de compétition, où j'ai eu l'impression qu'on nous disait beaucoup de mal du monde dans lequel nous vivions, de la déshumanisation, c'est exactement le mot que vient d'employer Eva, et elle a tout à fait raison. Mais j'ai eu l'impression que, une fois que les metteurs en scène, un peu moralisateurs, un peu donneurs de leçons, avaient asséné ce dogme, cet axiome comme quoi nous étions tous foutus, et ça se traduisait à l'écran par il faut tuer les parents, il faut tuer les enfants, il faut tuer tout le monde. En gros, ils apportaient pas énormément de solutions, de lueurs d'espoir. Et ce que j'aime dans le Campillo, avant de savoir où il est, c'est que c'est un film où il pourrait justement jouer être culpabilisateur. On n'a rien fait à cette époque-là, on a laissé les gamins mourir du sida, et lui c'est un vrai film de vie et d'espoir.
On va vraiment en parler.
Mais voilà.
Et donc, mais simplement, donc pour toi, c'est une tonalité plutôt sombre.
Très sombre, vraiment, à coup, j'allais dire, figuré et littéral de marteau, et très moralisatrice, très donneur de leçons. Et moi, ça me laisse un goût très amer.
Daniel?
Oui, non, moi, c'est vraiment, cette banalité de dire le cinéma, c'est l'état du monde. Ben, le monde va très mal. La famille, c'est un monde en soi. La famille va très très mal. Et je trouve que le sort réservé aux enfants, quelle que soit la nationalité est absolument abominable. Privé d'amour,
abîmés, hein.
Suicidaire, explosé dans un attentat, faussement explosé simplement pour faire le buzz, tué à bout portant, kidnappé.
Oui, n'oublie pas les réseaux de prostitution.
Je veux dire abusé, kidnappé. Et quand tout va très bien, sourd-muet. Bon, donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose de tellement fort et de tellement répandu dans la cinématographie internationale que ça, vraiment, ça vous laisse quand même un arrière-goût absolument désespérant.
Donc, deuxième compte-rendu un peu mélancolique.
Non, mais je veux dire, c'est l'état du monde et l'état du cinéma. Donc, effectivement, cette compétition a véritablement appuyé sur ce côté-là.
Moi, mon problème, c'est pas tellement que c'est des films sombres qui donnent une vision terrible de l'état du monde, c'est que il y en a beaucoup qui ne sont pas de très bons films. C'est plutôt ça le vrai problème. C'est-à-dire que c'est même un festival où il y avait 5 ou 6 films assez exceptionnels, mais que c'est la première fois que je vois. Par exemple, si on voit les cotations des critiques, un certain regard, il y a des films qui ont 3 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, et des films en compétition où il y a un point noir, 1 étoile, un point noir, 2 étoiles. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire, si une section parallèle présente des films absolument remarquables, on se dit, mais pourquoi pas en compétition, avec un club où on revoit pratiquement tout le temps les mêmes noms. C'est-à-dire, on a Naomi Kawase, on a Monsieur Lantinos, qui est pour moi un imposteur absolu, et il est abonné au festival Festival de Cannes, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là. Et je pense que c'est, ça
parlons
serait...
pas d'Haneke.
C'est payant. Oui, Haneke, on aurait pu lui faire une soirée d'hommage, il a eu deux palmes d'or, voilà, hommage à Haneke. Je pense que c'est ce qui est sclérosant, c'est ça. Et je pense que quand Thierry Frémaux prend des risques, c'est-à-dire quand il met Campillo et quand il met Östlund, le Suédois, pour The Square en compétition, c'est payant, puisque ce sont parmi les meilleurs films de la compétition.
Oui. Je suis pas sûr qu'en revanche, qu'en terminant le festival par le film de Roman Polanski, il ait fait, hors compétition, qu'il ait fait le meilleur épilogue du festival. Sophie?
Oui, bah, je suis assez d'accord avec ça. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que des grands cinéastes, il y a des années comme ça, ils sont là, mais c'est pas avec leur meilleur film. Alors, en effet, Haneke, c'est un film intéressant, mais c'est pas forcément son meilleur film. Todd Haynes, quelle déception, alors qu'avec Carole, il était quand même au plus haut, et même Zia Gitsev, à qui on promet un grand prix, me semble malgré tout, même si je trouve que c'est un beau film, pas aussi fort que l'été, Elena, Le Retour, etc.
Oui,
mais il y a des bémols, alors qu'avant, on disait
qu'il n'y
en avait pas. Et là, je trouve qu'il aura probablement un grand prix, mais
parce
néanmoins...
Parce que c'est un des meilleurs films.
Le sentiment d'Eva Bétan.
Il y a une chose étrange, c'est que tout ça se passe en 12 jours, et pourtant, ça va très vite dans notre tête. C'est-à-dire, d'habitude, un film, comme on les voit espacés dans le temps, ils mettent du temps à se décanter. Et là, ça va se décanter vite. Et on voit que reste les films les plus forts. Et ils ont fait leur marché dans ce qu'il y a de plus fort, dans ce qu'on voit dans la salle, Östlund, Campillo, ils ont fait leur marché dans à peu près, on discutera après quand on verra le détail des résultats. Si Diane
Kruger... Et compris vos regrets aux uns et aux autres.
Voilà, on en viendrait là. Mais je trouve qu'il y a une puissance de certains films, et à côté, il y a des films qui très vite se sont évanouis de la mémoire. Donc c'est très étonnant. Et dans le côté, on voyait Haneke qui effectivement, c'est peu dire qu'il n'est pas son meilleur film, et à côté, on voit des gens qui font la génération d'après, qui fait de la morale en sale gosse. Östlund, c'est de la morale en sale gosse. C'est un sale gosse qui dit, mais vous pouvez vous comporter comme des chiens, avec en étant bien pensant, il suffit d'un rien pour que le vernis craque. Et donc, c'est intéressant de voir comment les questions morales, qui sont souvent dans les films des grands cinéastes, sont prises par une autre génération. Michel peut aimer, tu peux aimer, pas aimer, l'antimo, c'est une chose, mais c'est un sale gosse, d'une certaine manière, quand il prend les sujets. Et ça, je trouve ça intéressant.
Alors, ce festival a aussi, de 70 ans, a aussi été marqué par une polémique qui était assez légitime, qui est celle de Netflix. Je rappelle qu'il y a cette plateforme internet américaine présentée en compétition, ce qui est une première. Deux films, celui de Noah Baumbach et celui de Bong Joon-ho, qui ne sont pas d'ailleurs, qu'on n'a pas vu apparaître sur les marges, donc ils ne seront pas... ça a provoqué la colère, encore une fois, légitime des exploitants. Votre sentiment assez vite aux uns et aux autres, est-ce que ces films Netflix méritait ou pas d'être primé ce soir, Daniel?
Je crois que ça ouvre le débat et que le débat ne fait que commencer.
Absolument.
Et qu'il y a un débat. Bon, ces films Netflix, sur une plateforme payante, ne sortent pas en salle. Bon, c'est évidemment la contradiction absolue.
Pas chez nous, hein. Ils sortent dans d'autres pays.
Dans d'autres pays, mais chez nous, pas. À la conférence de presse du jury, Will Smith a eu une analyse que j'ai trouvée très pertinente. Il a dit... Oui, effectivement, le débat est ouvert et il n'est pas terminé. Mais, moi, à la maison, j'ai un 21 ans, un 18 ans, un 16 ans. Ils vont au cinéma, ils adorent le cinéma, ils adorent lorsque le grand écran s'illumine, ils attendent la magie. Et quand ils rentrent à la maison, comme des fous,
ils
sont Netflix,
bien sûr,
et ils voient sur Netflix des films qu'ils n'auraient jamais vus de leur vie. Alors, effectivement, je trouve que l'attitude du festival est un petit peu faucheton, en disant, cette année, oui, c'est des beaux films, alors montrerons-les. Et puis, l'année prochaine, il n'y aura pas de films Netflix, mais peut-être. Peut-être que dans un an, on aura fait avancer le débat et peut-être que le délai pour la sortie en salle se rétrécira et que ils ont beaucoup d'argent, soyons un peu triviaux, et ils mettent beaucoup d'argent dans le cinéma, essayons de trouver un accord plutôt que de dire terminé, fini, voilà.
Michel,
moi je ne crois pas qu'il y aura un accord possible. D'ailleurs, le festival a déjà dit qu'il ne prendra pas de films Netflix l'année prochaine parce que Netflix ne peut pas accepter les conditions du festival. Ils donnent à leurs abonnés un privilège, c'est de voir le film sur le petit écran en priorité.
Et après, tu auras les films Amazon.
Ils vont pas attendre 3 ans. Ils vont pas attendre 3 ans ensuite pour le sortir en salle.
Sophie?
Oui, comme dit Daniel, il faut revoir la chronologie immédiate, c'est ça qui est essentiellement en cause. Et c'est dommage parce que Okja, pour répondre à ta question, Okja est un grand film à mon avis, mais qui est effectivement a pâti de Netflix.
Eva, on retourne dans le Grand Théâtre Lumière pour un premier grand prix. C'est
donc
le prix du scénario.
À deux lauréats. Yorgos Lanthimos pour son film Mise à mort du cerf sacré, et Lynn Ramsey, la cinéaste écossaise.
Donc, on va peut-être écouter.
You were never really. J'arrive pas à le dire.
You were never jamais really vraiment là.
Tu n'étais jamais vraiment là.
On va le dire en français, c'est aussi c'est bien et c'est plus clair. On écoute Lynn Ramsey.
La semaine dernière, j'étais encore en train d'apporter les dernières finitions.
But it's been the most amazing thing.
Ça a vraiment été formidable, cette expérience. Donc, je voudrais remercier Thierry.
Pascal Cousteau,
Thierry Frémaux, Pascal Cousteau, c'est lui qui a rendu ce film possible, Jamison, la productrice, et surtout Joaquin Phoenix, qui a fait de ce film ce qu'il est.
Film for lots of people, thank film for BFI, Leslie Frankie Rose.
Merci à Frankie Ruiz.
Lots of amazing actors.
Merci à tous les acteurs fantastiques. Alex Menet,
Katina
Samsonov,
John Dorman,
Lois. Je pense que j'en oublie certains. Je suis un petit peu émue, mais merci à tous.
Et maintenant, nous allons écouter Yorgos Lanthimos, qui reçoit également ce prix du scénario pour Mise à mort du cerf sacré.
Ce festival, merci au jury pour ce beau cadeau. Merci à mon co-scénariste et à tous ceux qui ont rendu ce film possible. Nous ne serions pas ici sans eux. Merci.
Voilà des remerciements brefs. Je vous rappelle qu'on est en direct du Festival de Cannes et que tranquillement, à partir de 20h, environ en tout cas, quand la Palme d'Or sera décernée, nous reviendrons en détail sur ces films dont la plupart ne sortiront pas dans l'immédiat. Donc il faudra un peu raconter à nos auditeurs ce qu'ils sont. Ils sortiront la plupart à la fin de l'été ou en début de l'automne. Mais d'ores et déjà, c'est vrai que c'est un mariage, comment peut-on dire, un peu improbable, celui de Lanthimos et de Lynn Ramsey.
Ben surtout que le film de Lynn Ramsey, il est dans sa construction plus que dans son scénario. C'est vraiment ce qu'il y a de singulier dans ce
film. Moi, je n'ai pas tout compris.
Voilà. Mais c'est la manière dont il va y avoir un flashback très court qui nous rappelle l'enfance d'enfant maltraité du personnage principal de Joaquin Phoenix. Donc c'est pas tant un film de scénario, si on met le scénario à plat. C'est New York Police Criminelle avec l'enquête sur des crimes particulièrement odieux. Et ce n'est pas du tout le dénouement de l'intrigue policière qui l'intéresse. Donc c'est très étonnant qu'elle soit au prix du scénario.
Il faut rappeler qu'il y a aussi un usage très contondant du marteau.
Du marteau
dans
ce film.
Et
qu'elle achète chez l'équivalent de Laurent Merlin.
Mais dont on peut mesurer l'efficacité.
Oui.
Hein.
Et le cerf sacré,
c'est autre chose, tout à fait.
Totalement. Et je pense que les remerciements brefs sont à l'image de sa déception, parce qu'il pensait être beaucoup plus haut.
Mais il faut rappeler, à 19h47, les lois donc de cette distribution de prix. On ne peut pas avoir plusieurs prix pour le même film ?
Je crois me souvenir qu'on ne peut pas avoir la Palme d'Or et un autre prix. Si on a la Palme d'Or, on n'a que ça. Donc ça veut dire qu'il sait que la Palme d'Or, c'est pas pour lui.
Un nouveau prix va être décerné ici au Festival de Cannes. Eva, je vous laisse
merci beaucoup.
Nous dire qui reçoit ce prix et quel est ce prix.
Alors c'est le prix du jury qui est remis au Russe Zviakintsev pour le film Faute d'amour, et on entend quelqu'un dans la salle qui dit vous méritiez la Palme.
Это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский и Миша Кричман, который здесь в зале. Мой ближайший друг Олег Негин, автор сценария. И, в общем, все имена, они знают, о ком я сейчас думаю. Не буду произносить их все. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за ваш талант.
Comme nous n'avons pas dans
le... remercier tous ceux dans la
tradition française,
films, mes amis proches. Je voudrais en premier lieu évidemment remercier mon producteur Alexandre Niansky. Je voudrais remercier mon chef opérateur qui est ici dans cette salle, Michael Kritschmann. Je voudrais remercier également mon co-scénariste Oleg Negin, ainsi que tous ceux dont je ne vais pas citer tous les noms ici, mais je les remercie du fond du cœur. Merci à vous tous.
Et конечно, спасибо высокому жюри, особенно одному парню, которого зовут Уилл Смит. On
ne sait pas si Andrei Zvaginsev ira demain au château de Versailles retrouver M. Poutine, mais en tout cas pour l'instant ce soir, il est à Cannes pour Loveless, pour Sans amour ou Faute d'amour, qui est un film. Donc ce réalisateur, il faut le rappeler, hein, c'est celui d'Elena, très beau film, et de Léviathan,
qui a eu le Grand Prix du jury. Donc
j'ai encore des souvenirs visuels absolument incroyables. Et qui disait pour ce film, je voudrais que mon film soit comparé à Scène de la vie conjugale de Bergman. Et c'est ce qu'il voulait qu'on sache et qu'on dise de Sans amour. Oui,
Eva. Et le film sortira le 20 septembre en France. Donc, vous pouvez voir dans pas très longtemps. Il avait fait aussi Le Retour, qui est un film magnifique.
Lion d'or, c'est son premier film.
Exactement.
Et puis, il faut aussi rappeler que ce film Loveless de Zvaginsev est un film inter. Bon choix, bonne pioche, une fois de plus, de notre maison, puisque il y aura aussi d'autres films inter qui vont apparaître, je peux vous le dire d'ores et déjà, d'ici la fin de ce palmarès.
Et c'est tout le mérite et le talent de Françoise Bonnet.
Françoise Bonnet, qui est notre madame cinéma, et qui choisit de très, très, très bons, en général, partenariats. Et c'est le cas de ce film Loveless, dont on reparlera un peu plus tranquillement, je vous le disais, à partir de 20h. Un nouveau trophée, un nouveau prix ici au Festival de Cannes, Eva.
Ça va venir, c'est meilleure actrice.
Ah, meilleure actrice.
Est-ce que ce sera Dan Kruger?
On dit Kruger. J'imagine que ça va être Diane Kruger, mais on peut le suivre d'ailleurs en direct. Je laisse le retour à la salle.
À notre tour, elle nous fait battre le cœur plus fort, plus large, comme elle a fait battre le vôtre. Cher formidable jury. Voilà. Monsieur le Président, qui remporte le prix?
Le prix d'interprétation féminine est attribué à Diane Kruger.
Voilà, prononcé par Pedro Almodovar, la lauréate du prix d'interprétation féminine, c'est Diane Kruger. Pour son interprétation d'une femme qui va pas bien, dans le film In the Fade de Fatih Akin, cette Allemande d'origine turque. D'ailleurs, c'est aussi le sujet du film en partie, puisque elle perd son mari et son enfant dans un attentat perpétré par un néo-nazi. Et donc, elle va vivre ce qu'on peut appeler banalement un chemin de croix, tout au long de ce film de Fatih Akin.
Son mari turc.
Et voilà, Diane Kruger, qui est sur la scène du Grand Théâtre Lumière ici au Festival de Cannes, pour remercier le jury et le public de ce prix.
Merci infiniment au jury. Je suis submergée par l'émotion.
Et Thierry Frémaux et Pierre Lescure, merci. Merci mille fois. Tout a commencé ici au Festival de Cannes, pour moi. Et
Fatih, mon frère.
Thank you for taking a chance on me.
Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir permis de faire ce film. Tu m'as donné une force que j'ignorais avoir, et je ne l'oublierai jamais.
Everyone who made the movie, our crew,
tous ceux qui ont fait le film, notre équipe qui m'a vraiment soutenue tout le long, tous les producteurs qui ont rendu ce film possible, les acteurs. Je ne peux pas accepter ce prix sans penser à ceux qui ont été touchés par un acte de terrorisme, ceux qui essaient de reconstruire les choses et de continuer à vivre après avoir tout perdu. Sachez que vous n'êtes pas oubliés. Merci.
Diane Kruger, qui vient de recevoir ici à Cannes le prix d'interprétation féminine, émue, après avoir été sans doute un peu traumatisée par ce film, elle est émue de recevoir cette belle récompense, Eva.
Oui, alors, il y a un paradoxe, mais on peut avoir des avis différents. Comment on peut avoir un prix d'interprétation, à quoi battre une bonne actrice dans un film qui n'est pas réussi? C'est dit poliment un peu le paradoxe de ce film.
Disons que c'est la vie d'Eva Bettan.
C'est la vie d'Eva Bettan, je le dis poliment. Mais voilà, ça raconte l'histoire d'une femme donc qui épouse en prison un Turc qui était arrêté pour des raisons politiques, pour trafic de drogue, il se réinsère, il va bien, tout ça est en quelques scènes. Elle part, elle s'absente un moment, une bombe est posée devant le magasin de son mari.
Elle a un fils.
Exactement, et le mari et le fils sont tués.
Oui.
Mais à partir de ce sujet qui est vraiment chaud, il fait un film artificiel. Il part du fait réel, il y a eu des attentats de gens, et il fait un film faux, avec un côté démonstratif. Quand on voit ce qu'il a fait il y a 10 ans avec De l'autre côté, sur les rapports entre Turquie et Allemagne, qui était du grand cinéma, on se dit, mais où est passé Fatih Akin?
On va reparler de ce film tout à l'heure. Xavier, un mot peut-être de Diane Kruger?
Ah, c'est à moi de...
Non, bah, juste en amour.
Oui,
hein.
C'est le rôle tellement fait, tellement écrit, tellement pensé pour avoir un prix d'interprétation. Elle est pas maquillée, elle a le rimel qui coule, elle se roule par terre. Enfin, je veux dire, c'est une espèce d'aller simple vers le prix. Pas du tout mérité parce que je la trouve pas émouvante. Je trouve qu'elle incarne pas le personnage.
Bah, elle a beaucoup souffert, quand même.
Je suis d'accord avec... Oui, mais je m'en fous, ça, complètement. Je veux dire,
pas bien.
Et Eva a raison, je veux dire, le film est démonstratif, le film est pesant, et ça m'embête qu'il soit au palmarès. Même pour une interprétation féminine.
Daniela, je suis moins sévère.
C'est très mignon avec l'accent d'Almodovar. Le prix d'interprétation masculine est attribué à Joaquin Phoenix.
Voilà.
C'est pas mignon, Joaquin.
Après l'interprétation féminine, l'interprétation masculine, et c'est donc Joaquin Phoenix dans le film qui a déjà été récompensé de Lynn Ramsey, qui est en français Tu n'étais jamais vraiment là. Film, il faut dire, où il a pris, ce qui n'est peut-être pas encore le cas là aujourd'hui à Cannes, mais il avait pris pour le film pas mal de kilos, et puis il est bien abîmé, il faut dire la vérité. On écoute Joaquin Phoenix recevoir ici à Cannes son prix d'interprétation masculine.
Merci. Ce prix est tout à fait inattendu. Oui, mes chaussures ne sont pas de circonstance. J'ai renvoyé mes soulets vernis. Toujours est-il que je suis sans voix.
Il faut expliquer à nos auditeurs qu'il porte des baskets.
Très mignon.
Un grand merci à Thierry. Merci à tout le monde ici. Merci à Ted Hoopen de Amazon Studio, Pascal Rosa, Jim Wilson, le producteur. Lynn, je t'adore. Et tout ce que j'ai pu faire était lié complètement à l'œuvre de Lynn Ramsey.
Joaquin Phoenix qui reçoit ce prix d'interprétation masculine, qui remercie Thierry et Pierre comme Diane Kruger. Il faut rappeler à nos auditeurs que Thierry Frémaux est le délégué général du Festival de Cannes et que Pierre Lescure en est le président. Un Joaquin Phoenix, bel homme ce soir, mais très abîmé physiquement dans le film. Ancien vétéran de l'Irak et ancien du FBI d'ailleurs, qui va essayer de sauver des grippes d'un réseau de prostitution, la fille d'un sénateur d'ailleurs. Le film est beaucoup plus complexe que je ne le raconte là, parce que je n'ai pas tout compris, mais ce qu'il vit physiquement, ce phénix, ce qu'il vit physiquement dans ce film, est assez épuisant, même pour le spectateur, non ?
Ah, terriblement, oui, absolument. C'est une variation très sombre de Si j'avais un marteau, mon Claude François. Ça, c'est clair, parce qu'effectivement, à part le choix du marteau dans le Leroy Merlin local, le film est une succession de passages à pas d'une rare
violence,
et mise en scène avec une rare complaisance, on y reviendra tout à l'heure, et d'une finalité totalement floue. Je ne sais toujours pas ce que Lynn Ramsey, pendant une heure et demie de bain de sang, a essayé de me dire, à part effectivement le constat, mais comme le disait tout à l'heure très justement Daniel, que le monde est foutu, donc un peu plus, un peu moins.
C'est aussi de sauver les enfants martyrs, puisque lui-même est un ancien enfant martyr.
Tout le monde ne partage pas cette opinion.
On va en parler.
Oui, mais ça donne le ton. Je pense que c'est un film passionnant d'une des plus grandes réalisatrices au monde, Lynn Ramsey.
Deux fois primé.
Quatre films extraordinaires. Et je pense que ce film confirme totalement la puissance du cinéma.
Ou pas. Et il est 19h58, vous êtes bien sur France Inter, vous êtes aussi en direct du Festival de Cannes. Et voici qu'arrive le prix de la mise en scène qui est décerné. Eva.
Sofia Coppola, oui, et j'en suis un peu sans voix. Je savais qu'elle serait au palmarès, mais à la mise en scène. Pour
c'est
le
ça,
film
le direct,
qui s'appelle
hein.
L'Effroi. Donc,
L'Effroi.
Ah non, L'Effroi, c'était mon effroi. C'était L'Effroi, c'était juste un lapsus. Et donc, c'est très étonnant parce que, à un moment donné, on devrait avoir de l'effroi et on n'en ressent pas. Et c'est un film qui laisse extrêmement extérieur par rapport à l'histoire qu'elle raconte. C'est un soldat qui se retrouve dans
le. On va écouter d'abord. Si d'accord, tu veux bien, Eva, Sofia Coppola, ici au Festival de Cannes.
Non, c'est pas elle.
Ah non, c'est pas Sofia Coppola.
Non, elle n'est pas là. C'est Marina 2 qui parle pour elle. Merci parce qu'elle n'a pas pu venir.
I am not Sofia Coppola. I start again. Thank you to my friend and production designer Anne Ross for suggesting The Beguiled. Thank you to my great team, to my producer Yuri Henley, my brother Roman, and to Bart Walker. I'm so grateful to my wonderful cast, to my editor Sarah Fleck, costume designer Stacy Bata, and my cinematographer.
C'est donc Maren Adel, la réalisatrice du film préféré de Xavier Le Harper, qui est Tony Herman, qui, à la place de Sofia Coppola, exprimait les remerciements au jury pour ce film Les Proies. Là, on va en reparler tout à l'heure, qui n'est pas, je vous le précise, je vous préviens, un film France Inter, avec Nicole Kidman. Et avec beaucoup d'ailleurs de stars, bon, hein, Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fanning, etc., etc. Ce film qui a totalement déçu, on peut le dire, l'ensemble des critiques, aussi bien français qu'étrangers, mais qui malgré tout a reçu le prix de la mise en scène.
Bon,
grand mystère, non?
Moi, j'aime bien un mystère sans fond.
Vous savez, elle a déjà eu un Lion d'Or à Venise, tout le monde était stupéfait, donc elle a vraiment un code d'amour auprès des jurys, c'est évident. Et c'est tout de même étonnant, parce qu'une femme qui a commencé par trois films extrêmement originaux, on pouvait ne pas aimer Marie-Antoinette.
Virginie était formidable. Même Marie-Antoinette n'était pas...
Mais même Marie-Antoinette, elle prenait le contre-pied de l'histoire, etc. Et là, elle fait un remake d'un film de Don Siegel qui est très inférieur à l'original.
Je crois qu'elle va
intervenir. Je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il ne reste plus que deux prix à être. Le prix, le
bon
grand prix.
Campillo, hein.
Et ça sent bon pour Campillo. S'il échappe, et s'il arrive à ne pas avoir ce prix-là, il a la route ouverte pour la Palme d'Or.
Et
donc,
c'est...
entre Oslund et lui pour l'instant.
Et c'est Costa Gavras qui est sur la scène actuellement du Palais des festivals. Pour annoncer donc le
Grand Prix,
le Grand Prix, le Grand Prix de cette 70e édition. Il est d'ailleurs avec Ania Jaoui pour annoncer ce que va être donc ce nouveau prix. On va l'écouter, Costa Gavras.
Et c'est bien heureux.
On l'a à peine écouté.
C'est un peu bref.
Le président Pedro Almodovar.
Eh oui. Et le Grand Prix est attribué à 120 beats per minute by Robin Castillo.
Et donc, c'est le Grand Prix,
et, voilà.
Et non pas la Palme d'Or, le Grand Prix décerné à Robin Campillo, film inter, 120 battements par minute, un film qui sortira le 23 août, qui nous a tous émus, bouleversés. Ah, oui. Au point qu'on aurait peut-être souhaité rêver d'une Palme d'Or pour ce film avec des comédiens absolument incroyables. Je le dis, je le répéterai peut-être ce soir encore. Dont Adèle Haenel, évidemment, et Robin Campillo, qui est actuellement effectivement ovationné dans cette salle
debout,
du théâtre
la
Lumière,
debout, hein,
qui
debout.
S'est mise debout pour saluer
debout.
Ce réalisateur qui est arrivé en t-shirt sans smoking. Et on va l'écouter tout de suite en direct du Festival de Cannes. Robin Campillo, Grand Prix de cette 70e édition du Festival de Cannes. Merci.
Je vais essayer de parler un petit peu plus. Merci. Je tiens à dire que je n'ai pas fait ce film seul. J'ai fait ce film avec toute une série d'acteurs, de techniciens, des producteurs, des financeurs, des gens qui m'ont soutenu. Et que je suis heureux que ça ait été une aventure aussi collective pour rappeler une histoire qui l'a été tout autant. On n'est jamais aussi intelligent, aussi beau, aussi fort qu'à plusieurs. Et ça a été un moment d'émotion très très fort, ce festival, pour moi. Voilà, je tiens à remercier les gens qui m'ont aidé, tous mes acteurs, tous mes techniciens. Je tiens à remercier Gilles Marchand et Laurent Cantet, qui m'ont soutenu dans ce travail. Je tiens à remercier Philippe Mangeau, qui a travaillé sur le scénario avec moi. Didier Lestrade, le fondateur d'ACT-UP, qui est venu voir le film la semaine dernière, et j'en suis très très heureux. Et d'autres copains de l'époque, Christophe Martin, Alain Volnian. Voilà. Voilà. Et évidemment, on peut penser que ce film est un hommage aux gens qui sont morts, mais c'est aussi un hommage à ceux qui ont survécu et qui tiennent encore aujourd'hui, qui ont eu beaucoup de courage et auxquels je pense énormément ce soir, qui sont toujours avec des traitements lourds et avec des situations assez précaires parce qu'à l'époque où ils étaient militants, ils ont mis un peu leur vie entre parenthèses. Voilà, c'est à tous ces gens-là que je pense. Et donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Hommage aussi, il faut le dire, à ceux qui se sont battus et parfois très, très durement, très violemment. C'est donc Robin Campillo qui reçoit pour ses 120 battements par minute. On va en reparler tout à l'heure sur les années SIDA, les années ACT UP, qui reçoit ce grand prix. Je le rappelle également que ce réalisateur, pas forcément très, très connu de nos auditeurs, elle fait un film qui était formidable, Eastern Boys, il y a quelques années, et qu'il est le co-scénariste et monteur attitré de Laurent Cantet, y compris de L'Atelier, qui était présenté ici dans Un Certain Regard cette année. Robin Campillo, donc voilà, qui reçoit ce prix. On va, c'est très important, reparler tout à l'heure. Vous allez rester avec nous dans Le Masque et la Plume pour nous écouter en parler. Maintenant on peut imaginer ce que va être la Palme d'Or, Eva.
Là, non, remettre un prix spécial du 70e. C'est Will Smith qui le remet.
Alors, peut-être à Madame Kidman.
Quelque chose, j'allais commencer à parler, mais c'est à vous, Monsieur le Président, de parler de ce prix spécial. Je ne veux pas vous couper l'herbe sous le pied. Non, je vais juste me contenter de dire le nom.
Le prix du 70e anniversaire du Festival de Cannes est attribué à Nicole Kidman.
Et voilà.
Bravo, Jérôme.
Voilà, voilà. Donc, il faut dire que c'est un prix qui est créé, comme vous l'avez compris, pour les 70 ans de ce festival de Cannes, et que Nicole Kidman, qui était présente à Cannes pour quatre films, enfin trois films et une série, Les Proies de Sofia Coppola, La mise à mort du cerf sacré de Monsieur Lanthimos, et puis le film de John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls, et puis la série, évidemment, de Jane Campion, Top of the Lake, saison 2. Je ne crois pas que Nicole Kidman soit là ce soir.
Non, c'était impossible. Elle était déjà à Nashville, dans le Tennessee, et c'est impossible techniquement qu'elle revienne.
Voilà. Alors, on peut dire que c'est un prix honorifique, symbolique, mais qui n'a pas grande valeur.
Non, c'est un prix un peu destructeur, un peu de charité.
Pourquoi destructeur ?
Non, mais ce qui est amusant,
franchement, c'est un prix d'assiduité, là. Je veux dire, ça ressemble à rien, quoi. C'est
un prix d'assiduité, parce que vous ne savez pas,
je pense que ce qui est amusant, c'est que c'était impossible de donner ce prix à Diane Kruger. Donc, on a donné le prix d'interprétation à Diane Kruger et on donne un prix d'honneur à Nicole Kidman qui méritait le prix d'interprétation féminine.
Moi, je l'aurais bien donné à Marine Wacht pour son arrestation dans le film de François Ozon. Oui, Eva.
Là, il y a une vidéo, donc elle remercie par vidéo. Elle dit que les quelques jours qu'elle a passé à Cannes avec plusieurs films, c'était formidable.
C'est original.
Elle remercie le jury, Pedro.
Elle est
très étonnée, mais elle a fait une vidéo quand même.
oui,
très bien. Oui, mais elle ne s'attendait pas du tout.
Enfin, c'est une très grande comédienne qui aurait dû avoir le prix d'interprétation.
Il est 20h07, vous êtes toujours sur France Inter en direct du Festival de Cannes dans Le Masque et la Plume. Est-ce qu'on peut imaginer, Eva, que la Palme d'Or ira à The Square,
film du Suédois Ruben Östlund? C'est comme un jeu de quilles. Quand toutes les quilles sont tombées, quelle est la quille qui reste debout? Donc
c'est élégant.
Ça devrait être The Square de Ruben Östlund.
Voilà.
Suédois de son état.
The Square. Bon, ce qui ne va pas vous surprendre les uns et les autres, j'imagine, non?
Très grand film.
Enchanté. Ça, oui. Bon, mais on peut encore répéter une fois qu'on a un petit regret pour notre.
Un gros regret. Je trouve qu'il y a quelque chose d'unique dans ce film. Quelque chose d'unique. Arriver à faire passer, à éviter tous les écueils, à faire passer toute la vie dans un film de mort, c'est une chose assez rare.
Et en plus de nous raviver une mémoire. Qui tout à coup est revenu avec une acuité formidable.
Il nous sauve quand même de l'absence totale, sans lui, des cinéastes français dans le palmarès, puisque je vous le rappelle à l'heure où on parle, ni Jacques Doyon pour son Rodin, ni Michel Hazanavicius
pour son Godard,
ni François Ozon pour L'Amant double, n'ont eu l'heure de plaire au jury de Pedro Almodovar.
Oui, Eva. Je ris parce qu'il est charmant, oui, Will Smith. Il est charmant.
Nous sommes d'accord.
Et il dit Nicole n'est pas là, mais Eva en pince pour en
Will Smith.
Eva depuis tout à l'heure.
Oui, je sens qu'elle n'a Dieu, que pour Will Smith.
Oui.
Donc maintenant, on arrive à cet instant fatidique. Il est 20h presque. Il est 20h09 de cette Palme d'Or de la 70e édition du Festival de Cannes. Et on va écouter évidemment Pedro Almodovar en personne, qui a l'air très en forme, remettre ce prix, tellement important. Et je vous laisse dans la salle du théâtre Lumière au Festival de Cannes. Et je laisse la parole à Pedro Almodovar.
Attends, je vais dire un truc avant.
Do you want to read it?
C'est un dialogue avec Juliette Binoche.
Love is light. L'amour est lumière. Le cinéma est fait de lumière. Movies are made of light. Wang, Pi, Due, Luz, Licht, Liche, Gato, Plutache, Luce.
Toujours Juliette Binoche.
En iranien. Cher président, cher Pedro, quelle lumière vous a uni pour cette Palme d'Or cette année?
Ah, oh, it's wonderful to listen.
Elle lui demande s'il est allumé.
De vous écouter déclamer ce poème, parce qu'effectivement, tout est lumière.
La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, The Square.
Et voilà, grâce à France Inter, vous savez tout avant même les résultats. C'est donc Pour The Square, qui est un film sur l'art.
Hein, contemporain.
Pas le moins d'une thématique à la... je pense évidemment à Art, la pièce de Yasmina Reza. De ce Suédois, là encore, très peu connu. Des
très grands cinéastes.
De Michel Simon, bien entendu.
Ruben Östlund. Non, mais on se calme. et en tout cas, qui est lui aussi, Palme d'Or, qui est un film inter. Je récapitule pour notre belle maison, le Robin Campillo, grand prix du Festival de Cannes, le Zvaginsev et le The Square, Palme d'Or, sont des films inter.
Bravo.
On écoute Ruben Östlund.
Karine, ça fait 10 ans, 12 ans que nous travaillons ensemble. Nous avons fait un film qui dure 2h30 et vous êtes le seul producteur du monde qui ait pu, lors de la projection, qui ait pu dire une chose, qui ait pu dire, il aurait fallu que le film dure plus longtemps. Philippe Louval, vous êtes sans doute celui qui est le mieux placé pour m'envoyer des notes pendant le montage. Je crois que tu m'as dit, par exemple, le singe en fait trop.
Klaus Bang,
on s'est beaucoup disputé pendant ce film, mais un grand merci. Tu es génial dans ce film et c'est avec toi que je partage ce prix. En fait, toute ton équipe. C'est un film formidable et une équipe formidable. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient à la projection et je suis ravi, j'espère que nous pourrons travailler encore ensemble. Cameron n'est pas ici. Sina Gertz, ma merveilleuse épouse. Un grand merci à toi, ma chérie. Et mes filles, qui étaient dans le film, qui avaient un petit rôle. Et je pense à vous. Alors, je voulais faire quelque chose avec vous, ensemble, pour célébrer ce moment. Quelque chose que je fais également dans les cérémonies en Suède. Je voudrais que dans le public, vous fassiez ça avec moi. On peut faire une belle photo dans les deux sens. Alors maintenant, si je peux vous diriger, puisqu'après tout, j'ai emporté ce prix, cette palme. Alors je vais faire un compte à rebours. 3, 2, 1. Et ensemble, on va crier ensemble. Un cri de bonheur, un cri de joie. Regardez, si tout le monde crie ensemble dans la salle, tout le monde en smoking, alors on va tourner les caméras vers le public.
Heureusement que vous êtes à la radio.
On y va. 3, 2, 1.
Et voilà.
Merci au Festival du film. Merci à Thierry, merci à Michel, merci à tous.
Et voilà la joie qu'il n'arrive pas à cacher du réalisateur suédois Ruben Östlund, qui reçoit la Palme d'Or ici au Festival de Cannes pour son film The Square. Petit récapitulatif à 20h15 sur France Inter dans le Masque et la Plume en direct, je vous le rappelle, du Festival de Cannes. Et bien donc, je le disais, la Palme d'Or, The Square, le Grand Prix du jury à 120 battements par minute de Robin Campillo, le prix du jury à Loveless d'Andrei Zvyagintsev, un prix du 70e festival, un peu spécial, décerné à Nicole Kidman pour ses nombreuses prestations dans ce festival. Également un prix du scénario partagé en deux entre Mise à mort du cerf sacré de Lanthimos et le film de Lynn Ramsey, Tu n'étais jamais vraiment là. Il faut ajouter évidemment Diane Kruger, prix d'interprétation féminine, pour le prix d'interprétation masculine Joaquin Phoenix. La caméra d'or est allée à Jeune femme de Léonore Serrail. Je crois que je n'ai oublié personne.
Non, c'est bon.
Et puis, on va ajouter un petit prix à Radio France et à la présence aussi de toutes nos émissions, nos journalistes, Eva en tête, dans ce festival de Cannes 2017. Revenons d'abord en détail sur ces prix et peut-être aussi quand même sur nos... Avant qu'on parle des films, de nos regrets. Est-ce qu'il y a des films qui étaient en compétition que vous regrettez de ne pas voir apparaître ce soir au palmarès, Sophie ?
Oui, moi, le film d'Ozon, L'Amant double, que je trouve être un grand film de metteur en scène et qui, dans la veine de body double, de films comme ça, arrive à la fois renouveler le genre et dire au-delà du genre. C'est-à-dire qu'il dit qu'on est en manque toujours de quelqu'un et on passe sa vie à être en manque de quelqu'un. C'est des choses très profondes qu'il arrive à dire tout en donnant une leçon de mise en scène. Tout le début, toutes les séances de psychanalyse, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui va voir un psychanalyste parce qu'elle n'est pas bien et qu'elle veut se soigner. Et tout le début du film est une série de séances. Tu veux me dire
Non, juste parce que je vois qu'on exprime ses regrets, mais qu'on n'entre pas dans le détail de ces films. Bon, d'autant juste, que je le précise, dimanche prochain, dans le Masque de la Plume, nous parlerons des films de Cannes sortis en salle, c'est-à-dire L'Amant double d'Ozon, voilà, Le Dépléchin qui a fait l'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël, Le Rodin de Jacques Doyon et le Philippe Garrel qui était de L'Amant d'un jour, qui était à la caserne des
Réalisateurs. C'est un regret.
Le regret de Sophie, c'est le Ozon. Le regret d'Eva.
Alors, je sais que c'est un film qui a partagé. Je regrette qu'il n'y ait pas eu le film de Cornel Mundruczó. C'est un Hongrois qui avait fait un film précédent formidable qui s'appelait White Dog. Et il a une manière de prendre des choses, une manière de raconter l'histoire qui peut être un peu fantastique. Là, il parle, la Hongrie est le pays qui est le plus dur envers les immigrants. Et il fait de la figure d'un immigrant qui passe la frontière. Il en fait une figure christique d'élévation alors que c'est un musulman réfugié qui est considéré comme la lie de la terre dans son pays et avec une originalité de mise en scène. Et je trouve qu'il avait sa
donc,
place.
Le regret d'Eva, c'est la lune de Jupiter. Le regret de Xavier.
Les Coréens, alors je vais en prendre un et puis je vais laisser à Daniel l'autre. Moi, c'est Le Jour d'après. Donc Sang Soo qui n'est pas malheureusement au palmarès et
qui sortira dans 15 jours, je crois.
Oui, absolument. Et qui est une petite miniature absolument délicieuse, calme, sereine, qui ne prend personne de haut, ni le spectateur, ni les personnages.
Ce qui était assez rare dans ce festival.
C'était très rare dans ce festival.
Le conseil de Daniel.
Presque un film optimiste, évidemment, d'après ce que nous avons dit, c'est original, du coréen Bong Joon-ho.
Qui était un film Netflix.
Voilà. Et qui était un film Netflix, Okja, qui est un pamphlet extraordinairement puissant sur les dérives de l'OGM. Et nous avons
avec un rôle d'un cochon.
Avec un rôle d'un
très important.
Un super cochon.
Qui aurait pu mériter un prix.
Ah, mais absolument, un super cochon admirable à qui il arrive de grandes aventures et une petite fille qui ne meurt pas à la fin. Donc c'est absolument extraordinaire. Et l'impériale Tilda Swinton en très 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 méchante.
Quel que soit le film, elle est toujours épatante.
Donc voilà, Okja, c'est mon...
Et le regret de Michel Simon.
Je suis d'accord avec Daniel, je le rajoute.
Et le regret de Michel Simon.
Le regret de Michel Simon, c'est qu'il n'y ait pas eu assez de bons films pour que je puisse en ajouter un, parce que je suis d'accord pour le film d'Ozon, et je suis d'accord pour le film de Hong Sang-soo, qui sont pour moi parmi les meilleurs films. Mais comme par ailleurs, le palmarès a couronné de très bons films aussi, il a fait peut-être que faux pas, mais en tout cas dans l'ensemble de très beaux films, donc je n'ai rien à ajouter.
Et on commence le masque et la plume, si j'ose dire, en direct sur les films qui ont été ce soir consacrés par le jury de Pedro Almodovar. Et on commence avec La Palme d'Or, c'est-à-dire The Square, qui est le nom de l'installation, le titre de l'installation de ce film, donc du Suédois Ruben Östlund, un film qui, évidemment, qui ne sortira qu'à la fin du mois d'août, le 20... Non, je crois que c'est on n'a même pas la date de sortie. Donc c'est difficile. Qui peut me faire un petit résumé, mais rapide, de ce film?
Peut-être Michel, qui en est fou d'amour.
Qui est le seul à aimer ça, oui.
Ah bon, le seul? Excusez-moi.
À cette table, Michel, oui.
Excusez-moi, je regarde les 15 critiques du film français.
Ah non, tu es au masque.
On ne peut pas dire une contre-vérité. Je veux dire, les 15 critiques du film français et les 11 critiques internationaux de Screen mettent tous les deux The Square avec le Campillo, c'est les deux seuls films qui étaient dans les cinq premiers.
Mais
je réponds à toi, essayez de dire qu'il n'y a que Michel Simon qui a des goûts très bizarres. J'ai rencontré énormément de gens qui pensent que c'est un film essentiel.
Il y a Pedro Almodovar aussi. Hein.
Tu as cette table à des rares à aimer, résume-le. Mais ne commence pas ce numéro de victimisation, je t'en prie.
Excusez-moi, je suis entre les deux, j'ai très peur.
Je suis seul à aimer à cette table, peut-être, mais ça ne représente pas.
Est-ce que j'ai le droit, enfin nos auditeurs, plutôt ont droit à un bref résumé de ce film?
Merci.
Alors d'abord, je dirais, je suis extrêmement heureux que Campillo ait eu ce grand prix du jury parce que c'est un très...
Mais je peux
donner mon sentiment. Je trouve que Campillo a eu un grand prix qu'il mérite absolument. Il n'empêche que, personnellement, je pense que le film le plus original, le plus complexe, le plus riche, le plus novateur de ce festival, c'était The Square. Donc, c'est pas parce que je suis minoritaire à cette table que je vais le cacher. Je trouve ce film admirable et je pense que c'est un film sur l'état du monde. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant dans ce Palme d'Or, c'est que mon film favori de l'an dernier, c'était Tony Erdmann. Et je retrouve Marina de au jury qui s'est arrangé avec ses camarades pour que M. Östlund ne soit pas la victime d'un jury comme l'année dernière était Marina de. Marina de, c'était le grand scandale qu'elle n'ait pas cette Palme d'Or qu'elle méritait amplement. Et cette fois-ci, ils ont complètement corrigé le tir. Ils ont donné à ce film qui est un film sur l'état du monde, et bien entendu, il y a parmi l'état du monde l'état de l'art contemporain. Il ne dit pas que l'art contemporain, il n'y a pas des grands artistes, il y a de grands artistes contemporains, il y a aussi énormément d'impostures. Déjà, le film est acerbe, drôle, avec un humour noir, mais c'est un film aussi sur la sexualité. Il y a par exemple une séquence que je raconterai pas dans le détail avec un préservatif qui restera anthologique. À mon avis, on la repassera dans 15 ans, c'est un morceau de bravoure. C'est un film sur la sexualité aujourd'hui, c'est un film sur un enfant effectivement revendicateur qu'on accuse du vol d'un portable alors qu'il n'a rien fait. Donc c'est un film mosaïque d'une extraordinaire intelligence, d'un cadrage et d'un sens visuel comme doit être normalement tout grand film.
C'est assez long, 2h20 à peu près.
Il fait 2h12, je crois.
2h20.
Oui, comme le Campillo, exactement.
C'était une précision, c'était pas une critique.
C'est un film, je trouve, stupéfiant, et je suis heureux que le jury ait eu le courage et l'audace de lui donner ce prix.
Non, mais je vais laisser Michel à sa joie. Elle est très légitime. On y reviendra quand le film sortira. Moi, il fait partie de ces films où des petits marquis m'ont regardé de haut, m'ont donné des leçons assez enfonçant un peu les portes ouvertes sur notre incapacité à voir la pauvreté dans le monde, à ne pas assumer la responsabilité de nos actes. Je trouve le film très artificiel. Sa dénonciation de l'art contemporain, je trouve, ne vole pas très très haut. Voilà. Moi, je n'aime pas ça, mais je suis ravi pour Michel. Je suis ravi qu'un film suédois, voilà. Il y a 5 ou 6 ans, j'étais ravi pour un pichaton qui verrait Stakul, tu étais furieux. C'est bien, ça change.
Je vois que tu dis très bien, un pichaton qui verrait Stakul, qui est assez, parfois, difficile à prononcer. Oui, The Square, la Palme d'Or pour Daniel.
Non, c'est pas la Palme d'Or pour Daniel, mais il y a des scènes, voilà. C'est un film interminable avec des scènes absolument drôlatique, ironique, bon, mais c'est une succession de sketchs, et la morale de tout ça est vraiment tellement lourdingue et tellement pesante. Quelqu'un qui a un poste important, qui est à mettre dans son jeu de curateur d'un musée d'art moderne, est quand même une ordure humaine absolue.
C'est bon, pas une ordure.
Comment?
Mais Thomas Bernhard a écrit des romans extraordinaires qui sont dans le même esprit.
Ah d'accord, l'optimisme de Thomas Bernhard jusqu'ici ne m'était pas apparu.
Le pessimisme ne me gêne pas du tout. Non, écoute, c'est un film très pessimiste, mais Thomas Bernhard...
constructif, Michel, c'est pas le cas. Eva.
Moi, c'est un film que j'aurais été ravie de voir au palmarès, mais pas à la Palme d'Or, parce qu'il y a une véritable originalité. Je trouve pas que le sujet soit l'art contemporain. C'est le portable, notre rapport obsessionnel au portable. Cet homme qui fait une installation d'art contemporain, vous vous mettez, ça s'appelle The Square, dans un carré, et pendant ce moment où vous êtes là, vous décidez d'être généreux, altruiste, etc. Et ce monsieur, on lui vole son portable, et il a une réaction totalement disproportionnée. Il préaccusait la terre entière de vol pour ce portable. Et il va filmer le règlement. Je trouve pas qu'il soit moralisateur, parce qu'il le fait d'une manière qui est drôle. Il le fait d'une manière qui est extrêmement drôle. Moi, je trouve que c'est plutôt l'air des sales gamins que l'air des profs de morale. C'est l'air des sales gamins doués. Par exemple, il y a un personnage formidable d'un petit garçon. Il a été accusé. Juste ça est une des choses les plus fortes du film. Puisqu'il a accusé tout un immeuble de lui avoir volé son portable, il y a quelqu'un dans cet immeuble qui l'a volé. Et il vient le voir et il le lâche pas. Il lui dit, mais tu m'as pourri ma vie. À cause de toi, mes parents me laissent plus sortir parce qu'on me traite de voleur, etc. Et il le lâche pas. Et c'est formidable comme image. Donc il y a des idées de cinéma très très bien. Palme d'Or, mon avis, c'est surpayé. Mais il a totalement sa place dans un palmarès. Il avait fait Snow Therapy, qui était vraiment très drôle et très insolent.
Oui, encore une fois, peu connu comme réalisateur. La plupart des auditeurs,
Je trouve que c'est un film narquois. Et le problème de ce film, pour moi, c'est que c'est un film d'idées. Il y a des films qui commencent par les personnages et donc qui pétrissent une matière humaine. Celui-là, on sent qu'il est parti d'une idée qu'il a eue lui-même, puisque c'est lui qui a fait ce carré et cette exposition en Suède. Il est parti de cette idée, et après, il y a greffé des personnages. Si bien que, en effet, il y a des choses brillantes dans le film, mais c'est pas que ça s'incarne pas, parce que Klaus Bang, il est très bon. Le problème, c'est que, par exemple, les relations qu'il a avec ses filles, eh bien, ça ne marche pas, elles n'existent pas. Et pourtant, il les filme, ses petites filles. Mais ça ne marche pas, parce que c'est un film d'idées, et ça, c'est, en effet, il est un peu en surplomb de ses personnages et de son histoire.
Ce film, on en reparlera évidemment quand il sortira. On ne sait pas quand, c'est The Square, la palme d'or de ce festival de Cannes, signé du réalisateur, du cinéaste suédois Ruben Östlund. Le grand prix du jury, c'est donc 120 battements par minute. Encore un film de 2h20, qui est aussi une norme, peut-être, pour notre jury. Troisième film de Robin Campillo, qui raconte donc la fin des années 80, début des années 90, le combat de d'ACT UP, combat avec des actions parfois assez violentes, d'ailleurs, pour essayer de faire entendre la voix de ces malades. Combat contre les laboratoires, il y a des scènes très, très, très fortes. Et puis qui rappelle aussi ces scandales qu'on avait aussi, pour certains, malheureusement un peu oublié, le sang contaminé, la responsabilité du gouvernement à l'époque Fabius de sous François Mitterrand, et puis aussi ce qu'était ces combats d'ACT UP. Moi j'avais oublié les slogans incroyables.
On peut pas répéter ici.
Je suis sûr, on peut le dire. Il y a des molécules pour qu'on s'encule.
C'est un grand slogan.
Grand slogan, et puis des très beaux aussi, comme J'ai envie de vivre, la participation aussi à la Gay Pride et Sophie.
Moi j'aime beaucoup le film, en effet. Je comprends qu'il n'ait pas la palme et qu'on lui ait donné le grand prix du jury, parce que c'est un film, je trouve qu'il mérite ce prix. Il est parfait pour ce prix là parce que en effet il est sensible, il ressuscite cette époque avec beaucoup d'acuité, avec beaucoup d'intelligence. Il passe du collectif à l'intime avec une grande finesse,
une belle histoire d'amour aussi,
oui, mais qui naît comme ça peu à peu, qui semble naître de ces bavardages incessants. Enfin, il y a une vitalité, en effet, comme l'a dit Eva. Il est question de mort et pourtant il parle, ils alertent, il bouge, enfin c'est une grande.
Parce que l'essentiel, il faut le dire aux auditeurs, se passe dans un amphi.
Une fois par semaine, ils se réunissent pour essayer de voir ce qu'il faut faire. Alors alerter le pouvoir public, essayer de s'encourager mutuellement. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ces débats-là, et c'est un moment de libération de la parole. La parole, à ce moment-là, s'est libérée, et ils ont pris possession à ce moment-là, ils prennent possession de leur maladie. J'ai un tout petit bémol, c'est que c'est une histoire, ils le traitent comme une chronique, et pourtant, cette histoire, elle a sidéré tout le monde. Enfin, cette arrivée de l'épidémie, c'était une sidération, c'était presque de la science-fiction. Et je trouve qu'à un moment donné, le film manque un chouïa de souffle pour rendre compte de cette sidération générale. Mais c'est vraiment un bémol dans un film qui, par ailleurs, est
avec des comédiens pour la plupart inconnus, à l'exception évidemment d'Adèle Haenel, qui joue très bien, d'ailleurs, une des responsables
de la table.
Et ce jeune Argentin qui s'appelle Nahuel Pérez Biscaya.
Qui était formidable dans le film de Benoît Jacquot. Oui. Il était la vedette de Dans les bois, un très beau film ignoré de Benoît Jacquot. Il était
Michel,
déjà remarquable.
Est-ce que tu as la parole sur ce film de Campillo?
Oui, alors déjà, ces comédiens, effectivement, qui sont tout à fait remarquables. Mais moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a énormément ému. Je trouve que la reconstitution, dans un style semi-documentaire, des âgés, des débats entre les personnages, etc.
On a presque l'impression que les textes sont improvisés.
Voilà, c'est tout à fait, c'est un travail formidable. Se greffe sur cela une histoire d'amour entre deux hommes et dont l'un va mourir du sida. C'est des scènes très, très émouvantes, très, très bien filmées. Et donc, encore une fois, je me suis posé la question, je me suis dit, avec un festival tout de même, dont la sélection laisse beaucoup à désirer, est-ce que le jury va sortir le festival vers le haut, ou est-ce qu'il va nous accabler encore plus et nous faire regretter l'année 2017? Eh bien, le jury, malgré tout, avec quelques erreurs, a donné à ce palmarès des prix tout à fait mérités et qui finalement vont laisser les gens avec une assez bonne impression de Cannes 2017.
Xavier,
c'est le film qui me réconcilie vraiment avec cette édition, parce que beaucoup de films nous ont essayé, en tout cas, cherché à nous culpabiliser. Nous ne faisons rien pour les migrants, nous ne faisons rien pour les pauvres, nous ne faisons rien. Campillo, il avait devant lui un boulevard pour nous culpabiliser. On n'a rien fait à l'époque, les pouvoirs publics n'ont rien fait, les laboratoires ont cherché à faire de l'argent et ont retenu les premières molécules qui arrivaient et qui pouvaient déjà atténuer un tout petit peu l'arrivée. Eh bien, Campillo n'est jamais dans la culpabilisation, il est dans la vie, il est dans l'amour, on sort de là, on s'est les
dangers. En même temps, il dit les choses.
Ah, mais il dit les choses, mais c'est
les responsables
génial.
Sont désignés aussi.
Au bout de 2h20 d'avoir envie de faire l'amour en sortant du film, alors qu'on en a vu les ravages, j'allais dire, pendant 2 heures. C'est un film bouleversant, c'est un film qui a une capacité à faire exister des personnages. Il y a Adèle Haenel, il y a ce couple, il y a ce jeune garçon atteint par le sang contaminé, hémophile, qui passe son temps à faire du faux sang dans sa baignoire et qui est soutenu par sa mère, qui est absolument bouleversant.
Le faux sang, il faut expliquer, pour faire les
bonbons.
Voilà,
pour les poches qui vont être jetées sur les laboratoires et tout ça. Les personnages sont jusqu'au bout, toujours dans la vie. Je suis pas tout à fait d'accord avec Sophie, parce que ce manque d'ampleur, c'est le manque d'ampleur que les malades, que les gens de ACT UP n'avaient pas. Ils pouvaient mourir du jour au lendemain. Donc il fallait agir tout de suite, effectivement, et dans cette urgence-là. Et je trouve que Campillo l'a fait. Il le fait avec amour, sans nous regarder de haut, sans nous dire, vous étiez pas, on a raté. Oui, on a raté, mais il y a des survivants et il y a des revenants, puisque c'est le titre de son premier film, et ils sont là à l'écran, et c'est difficile de voir le film sans, évidemment, les projeter. On en a tous connu, on a tous perdu des amis, mais ce film-là, moi, m'a réconcilié avec le cinéma, avec la vie, et j'allais dire presque avec la maladie, ce qui est terrible, évidemment, à dire, avec beaucoup de guillemets. Mais voilà, non, on peut pas se réconcilier avec le sida, mais se réconcilier avec...
Il faut dire les choses aussi c'est le seul film, au sortir de la projection, les gens étaient en larmes.
Ah, mais oui, mais c'est
c'était, ça a provoqué une sorte de d'émotion collective qui était,
c'est bouleversant.
Qui était assez rare aussi au festival.
Et n'oubliez jamais.
Daniel et Eva, Daniel?
Mais non, ce qui est magnifique dans ce film, c'est que tous les pièges du film militant sont absolument évacués. Voilà. Et on est dans un naturel profond. Voilà. Les réunions d'ACT UP, on y est. Voilà. C'est pas qu'on nous reconstitue. Il y a d'autres films qui reconstituent dans cette sélection. Là, on est avec eux. On est, voilà. Mais c'est vrai. On a oublié ça. Mais c'est vrai. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est pas du naturalisme, parce que c'est une sorte de reprise en main de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on avait voulu peut-être oublier. Et il nous remet là, en face de ça, avec une sorte de force, d'énergie et en effet d'envie de vivre qui est magnifique.
Eva.
Moi, je trouve que c'est un film unique, c'est-à-dire que c'est one shot. Il a fait ce film-là, il a dû mettre énormément de choses dedans et on le sent. Il y a beaucoup de choses très belles dans ce film. C'est, par exemple, c'est un film de groupe quand ça commence et on ne sait pas qui va être le personnage principal.
Absolument.
Et ça, c'est magnifique. Deux principaux. Ça arrive rarement au cinéma. Comme si les choses ne sont pas dictées. Il y a aussi des idées très belles, c'est que c'est pour moi le seul film politique véritable de ce festival. C'est qu'est-ce que c'est que s'engager? Qu'est-ce que c'est qu'être militant? On voit ce que ce peut être que le militantisme. Il arrive à faire du cinéma quelque chose qui devrait être austère, des âgés, où les gens décident de ce qu'ils font faire. Et ça nous réconcilie aussi avec aujourd'hui, parce qu'on se dit, mais il y a des gens qui ont eu le cran d'aller toutes les semaines, etc. Et il disait aux gens, même si vous n'êtes pas séropositif, si vous militez ACT UP, vous vous affirmerez comme séropositif. C'est une idée incroyable. Par exemple, ces gens, quand ils étaient malades, ont décidé de s'incarner, c'est-à-dire de dire, Je suis malade. Vous me voyez, je suis malade. Ce n'est pas une abstraction. Tout ça, c'est des idées très fortes. Et il y a une autre idée très belle qui est liée au sida, mais qui est liée à toute maladie qui mène à la mort. Il montre avec très beaucoup de pudeur ce que peut être la faim. Comment, quand les gens approchent de la faim, on est comme dans un tunnel. C'est-à-dire que l'univers se rétrécit. On est vers une solitude et la fin se joue à très peu de monde. Et ça, c'est très très beau quand il montre ça. Il évite, comme a dit Daniel, il y a 1 200 000 écueils dans ce film. Il y a de quoi faire un film abject, un tire-larme, un truc obscène. Il n'y a pas une obscénité. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film, un film rare comme ça quand il arrive. Il vaut toute l'or.
Et avec une équipe formidablement dirigée de comédiens, pour la plupart peu connus ou inconnus, par Robin Campillo, 120 battements par minute, film inter que vous ne pourrez voir malheureusement que le 23 août. Il faut patienter, mais vous aurez mérité de patienter. Il est 20h33, vous êtes en direct du Festival de Cannes. Sur France Inter, évidemment, pour participer à ce Masque et la Plume, y compris vous qui êtes dans vos voitures, je vous plains, pour participer à ce Masque et la Plume solaire qui explore un peu les résultats de cette 70e édition du Festival de Cannes. On va aller un peu plus vite, évoquer maintenant le prix du jury, qui est Sans Amour, Loveless, le film du russe Andrei Zvaginsev, le réalisateur d'Elena et de Léviathan, où un couple séparé va se retrouver, se réunir pour retrouver leur gamin de 12 ans qui a disparu. Est-ce que c'est un film qui vous a touché, Daniel?
Oui, bouleversé. C'est vrai que j'ai toujours un énorme faible pour Elena, que je trouve un film totalement admirable, bouleversant, inoubliable.
Avec un personnage féminin qui est, j'ai oublié l'interprète, formidable.
Et ce que voilà, c'est toujours un portrait de la Russie, c'est toujours un portrait en creux et d'une grande sévérité sur les état de la Russie, mais tellement incarné par des personnages de cinéma que voilà, c'est magnifique. Et là, c'est effectivement le titre français, je le trouve très beau.
Oui, il est bien trouvé.
Faute d'amour, Faute d'amour est évidemment vraiment un grand titre parce que c'est vraiment ça. Un petit garçon qui n'a pas sa place. Des parents qui ne pensent qu'à baiser, qu'à leur confort sexuel.
À refaire leur vie, oui.
J'aime
bien l'expression leur confort sexuel.
Voilà, oui. Voilà, c'est une litote.
Ils baissent plus beaucoup parce qu'ils ont chacun leur histoire.
Non, mais chacun de son côté.
Quand même.
Pas ensemble, c'est pas ensemble.
C'est ce qu'elle appelle le confort sexuel, Daniel.
Voilà, c'est ce que j'appelle le confort sexuel. Et ce petit garçon n'a pas sa place. Et ce qui est admirable et bouleversant, c'est que le début du film, c'est un paysage enneigé et on sait exactement ce qui va se passer et qu'une tragédie va se nouer. Et cependant, tout le long de ce film, on garde une espérance. On se dit ça n'est pas possible que ça se termine comme on sait que ça va se terminer. Et donc on est totalement avec ce petit garçon, avec en effet une absence d'empathie et d'amour qui est insupportable.
Même enthousiasme, Xavier?
Alors moi, je suis un fan absolu de Zvaginsev. Je suis comme Daniel, et Elena, pour moi, est un chef-d'œuvre, vraiment un film parfait. Évidemment, on est un petit peu... Moi, je suis un peu obligé de dire que Faute d'amour est un peu plus... pas mineur, mais un peu moins fort, peut-être, que les films précédents. Mais, pareil, c'est un film qui ne porte aucun jugement sur ses personnages. La mère n'aime pas beaucoup le petit garçon. C'est donc un nœud, quand même, dramatique, assez fort. Et pourtant, la caméra et le dialogue ne jugent jamais ce personnage, scrute son opacité, son mystère, la déliquescence du sentiment. C'est un film remarquablement mis en scène, comme toujours, c'est Zvaginsev. Voilà. C'est un film qu'on a vu au début. On en a espéré énormément. On était un petit peu déçus. On l'aurait vu hier. On serait hyper enthousiaste, donc je le reverrai à Paris avec
plaisir. Hier, on avait le Roman Polanski.
Oui, voilà.
C'est autre chose.
On a très mal terminé. Mais effectivement, c'est un immense cinéaste et je suis ravi qu'il soit au Palmarès.
Michel?
Oui, moi, c'était un des concurrents pour moi pour la Palme d'Or, incontestablement.
Mais en fait, vous êtes très content de ce palmarès et de ce festival.
Trouve que le palmarès a su, presque.
Surtout Michel.
A presque choisi les meilleurs films de la compétition, ce qui est plutôt réconfortant. Non, ce qui est intéressant aussi chez Zvaginsev, outre la beauté formelle, la façon dont il filme la nature, les battues pour retrouver cet enfant dans des forêts russes où il y a vraiment les boulots, etc., les bois
de boulot. Il y a beaucoup de boulot dans les forêts russes. Ça, c'est une chose que j'ai souvent remarqué. Il filme beaucoup ça de sapins dans le Jura.
Les espaces, les appartements sont extrêmement moteurs.
Il filme ça magnifiquement. Et puis, il appartient à tout un courant. Alors, il se revendique de Bergman, mais c'est vrai, Faradi en Iran, Nuri Bilge Ceylan en Turquie, Munju en Roumanie, on voit la descendance de Bergman. C'est des gens qui s'intéressent aux problèmes moraux, aux problèmes du coup. couple, aux problèmes de la société par rapport à l'individu. C'est tout de même très intéressant. Alors, on peut dire que c'est un cinéma de la morale, mais en tout cas, c'est un film de très haute tenue.
Sophie, Eva.
Ziakintsev, vous parlez d'Elena, il y a aussi Le Retour, qui est un film extraordinaire, qui reste dans la mémoire, mais même 10 ans après que l'on
le premier film,
film qui était terrible. C'est un film d'une radicalité absolue. Parce que il y a une scène, pareil, je veux pas dire quelle scène, il y a un plan, une scène, et c'est, on aimerait qu'il y ait une gomme à effacer le souvenir, j'aimerais qu'elle sorte de ma tête tellement elle me fait de la peine. C'est comme la mort de la mère de Bambi. Vous aimeriez ne pas savoir que la mère de Bambi. Mais il y a une scène dans
Bambi
film.
Était pas
il n'était pas dedans, non. Mais je dis qu'il y a des scènes de cinéma, vous aimeriez ne... Oui. Parce qu'elles vous font tellement de peine que vous aimeriez les oublier. Et en même temps, c'est bien qu'elles soient là. Ce qu'il y a de radical, c'est que le héros du film, en quelque sorte, est un présent absent. Cet enfant fugue assez vite dans le film. Et il sait que c'est qu'il encombre ses parents, qu'ils veulent pas de lui. Chacun dit, je veux pas le garder. Moi non plus, je veux pas le garder. On va le mettre en internat. Eh bien, cette radicalité fait que cet enfant n'est pas là et il est dans votre tête en permanence. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Sophie.
Oui, bah grâce à ce plan dont on parlait, qui est absolument magnifique, et tout à coup, on a l'impression d'être dans une histoire qui va peut-être être un peu pompeuse, un peu solennelle, je trouve. Et puis tout à coup, il y a ce plan qui intervient. Et là, alors, on peut pas le dire parce que ça serait dommage. Et là, tout à coup, en effet, ça devient absolument bouleversant. C'est aussi l'histoire de. C'est vrai que c'est très bergmanien. C'est assez bavard par moments. Et en même temps, c'est l'histoire de gens qui essaient de s'inventer une histoire individuelle et qui sont rattrapés par le collectif. Ça m'a frappé. C'était en cela aussi un portrait de la Russie. Et pour le meilleur ou pour le pire, parce que là, en l'occurrence, le collectif est pour le meilleur. Mais c'est vraiment des gens qui se démènent, qui se débattent pour construire leur propre histoire individuelle.
Loveless ou Faute d'amour de Zaginsev, du russe Zaginsev, sortira le 20 septembre. Encore un prix du jury, qui est aussi un film inter. Plus vite pour ces deux lauréats que sont à la fois Diane Kruger pour le prix d'interprétation féminine et Joaquin Phoenix, l'éléphantesque, le Marlon Brandonesque Phoenix dans le film de Lynn Drabzey. Que pensez-vous de ces, je dis bien, de ces deux rôles et de ces deux interprétations? Plutôt que parler des films, on parlera après de Lynn Drabzey. Xavier?
Oui, il y avait un boulevard, hein, c'était très clair. Le personnage de Diane Kruger était quand même fait, écrit et pensé pour avoir pris une interprétation.
Dans le film de Fatih Akin,
voilà, donc elle a tout, elle perd son mari, elle perd son fils, elle voit la justice lui refuser effectivement le droit d'être entre guillemets vengée, il va falloir qu'elle le fasse elle-même. Voilà, j'essaie de ne pas parler du film, je suis pas convaincu non plus de la grande prestation de Diane Kruger qui fait ça bien, mais qui fait ça avec un peu de prudence. Et puis Joaquin Phoenix, bon bah il a pris 4 kilos, il s'est pas lavé les cheveux. Là encore, moi je comprends pas très très bien, je vois pas où est la subtilité de jeu dans ce film-là, qui ne l'est pas non plus.
Il y a une scène finale où il s'arrache, il s'auto-arrache une dent.
Oui, totalement gratuit, parce qu'on ne sait pas pourquoi.
Il m'a fait mal. Elle m'a fait mal.
Il a le droit de s'enlever les dents en direct. Voilà. Moi, alors, c'est vraiment pour moi la caricature du rôle et de l'interprétation pour avoir un prix, justement, on se malmène, on s'auto-flagelle, on se frappe, on se violente, on a pris des kilos. Ça ne m'intéresse pas.
Phoenix, Kruger, Sophie.
Oui, moi, je préférais, tant qu'à faire Garrel, on a parlé des regrets, bah, finalement, prix d'interprétation.
Ah, mais Garrel n'était pas en compétition.
Je parle de Louis dans le rôle de Godard, qui je trouve, quoi qu'on pense du film, il méritait largement le prix d'interprétation. Et en effet, Phoenix, c'est un film curieux parce que c'est un film sur l'univers mental d'un type, hein, et donc il est toujours dans l'intériorité, mais donc il dit rien, il marmonne, et puis de temps en temps il fait le geste de, il parodie le psychose.
Et ça, le film nous prend plus pour
la première fois.
Enfin, à la fin du film, il ne peut plus parler du tout, parce que la bouche est paralysée.
Il dit plus rien. Oui, cela dit, il s'arrache une dent, mais dans l'Antidos, on s'arrache un bout de bras aussi. Hein. Il y a vraiment beaucoup de sang qui gicle. Mais je trouve que c'est un film très maniériste comme l'a dit tout à l'heure Xavier, qui est assez complaisant avec la violence.
Diane Kruger et Joaquin Phoenix, Michel.
Joaquin Phoenix, d'abord, je trouve que c'est un immense acteur et je suis très heureux qu'il ait un prix d'interprétation dans un film où il est formidable et très différent de ce qu'il a interprété par ailleurs. Donc, et d'autre part, je compte teste l'idée que les metteurs en scène font des films pour avoir un prix d'interprétation à Cannes. Je pense que la démarche d'un artiste, d'un véritable artiste, et je pense que dans le cas précis de la réalisatrice Lynn Ramsey, c'est une véritable actrice. Ça fait 17 ans qu'on voit son cinéma, on voit que c'est une figure majeure du cinéma. Oui. Je pense pas qu'elle s'est dit avec ça, je vais avoir le prix d'interprétation à Cannes.
Bon, t'as des manières de jouer qui on parle souvent de rôle à Oscar. C'est pas totalement faux.
T'as des rôles aussi à prix.
Mais je trouve qu'il est absolument étonnant parce que c'est un film, effectivement, un voyage intérieur. C'est pas simplement une accumulation de violences physiques comme il y en a dans des très grands films. Taxi Driver est un film de violences physiques et terrible aussi. Et De Niro, on dirait qu'il veut avoir le prix d'interprétation à Cannes. C'est tout de même un très grand film. Je pense que dans ce film, il est formidable. Quant à Diane Kruger, pratiquement tous les gens à qui je parlais à la fin du film disaient, elle peut avoir le prix d'interprétation. D'abord, c'est une actrice meilleure que ce qu'on a dit. Dans Les Adieux à la Reine de Benoît Jacquot, elle était tout à fait remarquable. Elle est souvent sous-estimée. Et là, évidemment, c'est à peu près le seul élément du film que je sauve. Je trouve le film d'une incroyable platitude. Des scènes de tribunal, Preminger devrait être là pour lui donner des leçons. Et puis, en plus, la morale du film, je la trouve vraiment répugnante. C'est-à-dire que c'est le kamikaze plus la vengeance. C'est Charles Bronson dans les films de vigilantes des années 70 aux États-Unis. C'est-à-dire, effectivement, les néo-nazis sont des salauds, mais qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un d'aller les tuer en se faisant sauter en plus avec eux?
Attends, Michel, là, tu racontes la fin, là, quand même.
Oui, mais ça.
Tu racontes un peu la fin, quand même.
Oui, je raconte la fin. Oui. Mais les gens auront oublié quand ils sortiront.
Vraiment, tu négliges les auditeurs du masque.
Ils ont la fin de la
mission, la mémoire longue.
On se repasse pas en boucle notre émission.
On va se faire accuser de.
C'est un film grossier.
De spoiler encore les films.
Moi, j'ai juste une information à vous donner, c'est que. Joaquin Phoenix est au régime à 500 calories par jour parce qu'il faut maigrir beaucoup, très vite pour les rôles suivants. Il mange que des asperges.
Quand
il
était à Cannes,
il mange
de
que des
Denis.
Asperges. Oui. Non, il va tourner avec Jacques Audiard. Le prochain film qu'il fait, c'est avec Jacques Audiard. Et là, il est à l'amaigrissement sec. Asperges.
Oui. Oui, c'est des rôles à prix. Bah oui. Ils ont eu les prix. Voilà, c'est pas un scandale. Ils ont donné de leur personne, ça, il faut le dire. Et on peut juger les films très différemment. Ce sont tout à fait des prix d'interprétation logique.
Et je crois que le jury, en donnant deux prix à un film, a voulu marquer son intérêt pour le film. Sinon, il n'y aurait pas donné deux prix.
Donc là, nous parlions à la fois de Joaquin Phoenix dans le film de Lindsay Ramsey et évidemment Diane Kruger dans le film de Fatih Akin. Ce prix de la mise en scène, grand mystère, peut-être le plus grand mystère de ce palmarès, attribué au film de Sofia Coppola, Les Proies, qui se passe pendant la guerre de sécession dans un pensionnat de jeunes filles, avec une distribution aux petits oignons, évidemment, dont Nicole Kidman, qui était, je le dis encore une fois, quatre fois présente dans ce festival de Cannes. Ce prix de la mise en scène, expliquez-moi, ou plutôt donnez-moi votre sentiment, Eva.
J'ai du mal à le comprendre. C'est un très beau prix. Et je ne vois pas en quoi la mise en scène ici est exceptionnelle, puisque cet homme, donc, c'est un soldat qui est dans un pensionnat de jeunes filles. Il va susciter des désirs, des choses, etc. Ça va se passer mal. Il y a des scènes qui sont censées être des scènes d'effroi, et la salle rit quand elle dit « apportez-moi la scie ». Et c'est pas
non, c'est pas
un arbre.
Et tout le monde rit.
Et je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'humour dedans. Mais enfin, je sais pas. Moi, je ne vois pas. Elle n'arrive pas. Elle ne suscite pas grand-chose qu'un sentiment. Je ne comprends pas ce prix.
Moi, je trouve pas qu'elle mérite forcément le prix de la mise en scène. Il y a des films.
C'était un grand prix, hein, quand même.
C'était un très grand prix. Et Aung San Suu, par exemple, le méritait sans doute largement plus. Mais c'est vrai. Donc c'est un regret. Mais j'aime quand même le film. Je trouve qu'il ne mérite pas non plus le discrédit dans lequel on le met. Je trouve qu'elle a une façon de filmer ça comme une féerie,
oh,
au départ. Non, mais c'est pas ça. Elle s'en fout d'être gracieuse ou pas. Elle fait exprès.
Non, elle s'en fout pas.
Mais non, mais elle veut montrer la dualité de tout, de la guerre, des êtres, du paysage, etc. Donc elle filme ça comme un conte de fées qui tourne mal. Bon, le film de Don Siegel, moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il a de l'ironie aussi. Il a de l'ironie simplement. Et l'ironie, c'est pour ça qu'Eva, je pense qu'en effet, elle voulait faire de l'humour. Chaque fois qu'on rit dans la salle, c'est pas à ses dépens. Moi j'ai ri et je pense qu'elle voulait faire quelque chose de malicieux et donc elle y a réussi. Voilà. Encore une fois, je lui donne pas forcément le prix de la mise en scène, mais c'est pas un film.
Daniel, ton sentiment sur le Sofia Coppola?
Non, mais justement, pour moi, la mise en scène n'est pas là. C'est simplement une réunion de ravissantes créatures très très joliment
liées. Ça vient de ça, c'est derrière
non,
la façade.
Très joliment liées. Mais non, il ne se passe rien. Il y a pas de férocité, il y a pas de désir.
Tu la vois pas, moi je la sens.
Eh ben, tant mieux pour toi. Et franchement, le prix de la mise en scène à ce film gracieux, alors que Sofia Coppola, moi, Viager une Suicide, ça m'avait vraiment bluffé.
Y compris Marie-Antoinette, je trouve.
Y compris Marie-Antoinette qui était culottée.
Et la comédie à Tokyo.
Et Lost in Translation, je veux dire, bon, moi, franchement. Mais franchement, je n'ai aucune condescendance vis-à-vis de Mademoiselle Coppola. Et là, je trouve que c'est rien.
Michel.
Oui, c'est-à-dire que je crois qu'elle s'est dévitalisée. C'est-à-dire qu'elle a fait trois films qui étaient vraiment des films pleins d'originalité, de traitements inattendus, d'humour, etc. Et là, c'est un film un peu vain, c'est-à-dire pourquoi ? Elle dit, je n'ai pas du tout voulu faire un remake, mais c'est presque plan par plan, sauf que,
donc
effectivement...
Donc tu ne veux pas dire que c'est si mauvais que ça, parce que tu as aimé le Don Siegel, et tu dis que c'est un...
Oui, mais non, parce que justement, c'est un film qui n'apporte rien. On peut faire un remake d'un grand film...
Du point de vue de la femme, c'est ce qu'elle dit, et moi je trouve qu'elle, effectivement, elle est du côté des femmes.
Et Colin Farrell, à côté de Clint Eastwood, c'est...
Ça, je suis d'accord. Bah,
bien sûr, il y a une erreur de casting.
Il
y a une erreur de casting totale.
Xavier.
Le pire, c'est que, moi j'ai envie de dire, c'est un joli film, qu'on ne devrait pas dire à propos des proies. On voudrait que ce soit plus malaisant, on voudrait que ce soit plus malicieux, on voudrait que ce soit plus féministe, et c'est une jolie reconstitution. Je suis d'accord avec Sophie, c'est-à-dire je pense que Sophie a raison, les intentions qu'elle y voit, elles sont là, sauf que la mise en scène n'y va pas, et c'est un vrai problème. C'est que, de temps en temps, dans l'interprétation ou dans le dialogue, il y a cette petite ironie, mais là où la mise en scène devrait vraiment aller la cristalliser, elle n'y va pas, elle continue de regarder à distance ces très jolies jeunes filles, qui sont pour la plupart mannequins, des marques de cosmétiques qui sont à Cannes cette année. Voilà, et c'est... Bah oui, il y a un moment où ça aide aussi un tout petit peu. C'est un joli livre d'images, ça ne sent pas mauvais, alors que ça devrait quand même sentir la sueur, ça ne sent rien.
Pourquoi tu veux que ça sente la sueur?
Parce que quand t'as 20 kilos de robe sur le dos, bah oui, en alors. Plein été en Louisiane, il y a un moment où ça me ressemble...
C'est à ça que tu penses, toi?
Bah oui, bien sûr.
Elles sont très bien éduquées, n'oublie pas. Elles se lavent tous les jours.
Il y a un moment où il y a une mutilation, il faudrait que ça sente un tout petit peu la chair putride et tout ça. Eh ben non, tout est joli, tout est mignon.
Non, mais moi je suis d'accord avec Sophie, c'est qu'on peut pas accabler ce film, sauf qu'il se retrouve dans un très grand festival. Alors, et qu'il a un prix de la mise en scène.
Donc c'est le prix même de la mise en scène, c'est L'Effroi de Sofia Coppola qui ne sortira que le 23 août, et je vous rassure, contrairement aux Campillos, Vaginsef et Osloon, ce n'est pas un film inter. Allez, on termine rapidement avec ces deux prix du scénario, allez à la fois à Yorgos Lanthimos pour Mise à mort du cerf sacré, et puis on revient encore à Lynn Ramsey, deux fois primé ce soir pour ce film qu'adore Michel Simon, qui est Tu n'étais jamais vraiment là, avec Joaquin Phoenix. Xavier.
Ah ben bon, moi, ça fait partie des deux films que j'ai le plus détesté pendant ce festival, donc je ne suis pas joyeusement ravi par ces deux prix. Il y en a un qui, sous couvert de faire un film très cérébral, très posé, très mis en scène, très détriqué, nous raconte une fois de plus ce que disait très bien Daniel tout à l'heure, tout est foutu, tuons les enfants, tuons les parents, donneur de leçons, regardant de haut, ne se mettant jamais dans la fange, permettant de donner des... Voilà, comme c'est une espèce de moralisation à deux balles, le film ne m'intéresse pas, tellement il est manipulateur dans son scénario et dans sa mise en scène. Et puis, je suis ravi d'entendre Michel Simon dire du film de Fatih Akin que c'est du Charles Bronson, parce que moi, le Charles Bronson, c'est plutôt le Lynn Ramsey qui me semblait être affilié, quand même, à cette grande mouvance
pas
du cinéma.
Comme ça, du tout, du tout.
Non, mais moralement, c'est exactement
avec
la
les
même
de
chose.
Bronson. C'est-à-dire, bah, si on parle de cinéma, on parle de mise en scène, on parle pas de thématique. C'est tout autre chose.
Ah, Michel, excuse-moi, mais il y en a nous deux qui va faire un autre métier, parce que ça nous raconte quand même des choses, c'est-à-dire que en plus elle a un prix du scénario, j'ai jamais vu des traumas psychanalytiques aussi bêtes, mais d'une bêtise sans nom. Il y a une barre chocolatée à un moment qui est un énième trauma que subit le personnage, moi j'en ris encore, tellement c'est quand même d'une banalité, d'un basique et d'un bêtasson. Et puis je veux dire, tout est fait pour justifier le fait que ce type-là défonce la gueule pendant 2 heures, pendant 1h45 des crânes, et même quand c'est pas lui qui les défonce, il faut absolument qu'on les voit en gros plan,
mais
comme celui de sa mère.
Scénario, c'est le prix du scénario.
Ben oui, ben justement, il y a un moment où tout est fait, même dans le scénario, pour que la complaisance de la mise en scène se greffe.
Allez,
là-dessus.
Vraiment, rapidement, Michel, ce double prix de scénario.
Non, le film de Lanthimos, je comprends que Almodovar, les grands metteurs en scène, quand ils voient un film, ils voient le thème du film et ce qu'ils pourraient en faire. Ça pourrait être un film de Almodovar, le Lanthimos, c'est-à-dire un film de genre pervers. Or, c'est un film de genre de poseur, de cinéaste complètement fabricant de purs produits, qui n'a aucun intérêt. Je continuerai à penser comme la critique internationale qui le met en deuxième dans la compétition. Je continuerai à défendre toujours le film de Lynn Ramsey, que je trouve un film absolument extraordinaire. Ce un film de pur cinéma. C'est du pur cinéma.
Ah oui, mais parfois un peu dur à vivre.
Ah ben c'est très dur, bien sûr.
Enfin, moi, le prix du scénario à Lanthimos comme à Lynn Ramsey n'est pas justifié, parce qu'on l'a déjà dit sur Lynn Ramsey, moi je trouve que c'est un film très maniériste et presque psychologisant. Nous explique, comme l'a dit un peu Xavier, que ce type-là, il agit comme ça parce qu'il a été très malheureux quand il était petit. Donc ça me gêne. Et ça, bon, voilà. Et il y a de la complaisance. On l'a dit, il y a l'esthétise, la violence. Et Lanthimos, pour moi, c'est vraiment un truc. Il me semble qu'il l'avait eu déjà pour The Lobster, le prix du scénario.
Absolument.
C'est dingue parce que ces scénarios ils retombent jamais sur ses pieds, quoi. C'est roublard. C'est un film de faiseur et je trouve pas que le scénario soit. Moi, il retombe pas sur ses pieds, donc ça va pas du tout.
Depuis son premier film Canine, j'ai une dent contre lui. Ça, je ne veux pas supporter.
Bravo Michel. Oui, non, The Lobster, au moins c'était assez réjouissant. C'était pas toujours bien.
Oui, enfin, c'était pas toujours de très bon goût non
c'était
plus.
C'était de très mauvais goût, mais au moins il y avait de bons moments. Sur le Lynn Ramsay, effectivement, on regarde Joaquin Phoenix, qui est une beauté sur la terre, on se dit, bon Dieu, il a pris 40 kilos, et voilà. Et c'est vrai que les fantasmes, c'est-à-dire ce que je réfute dans le Lynn Ramsay, c'est que tout le temps, elle nous montre le pire, du sang qui gicle partout, en disant, c'est peut-être pas vrai. Et ça, je trouve que, alors là, pour le coup, sur la moralité, c'est pas bien.
On n'est pas des profs de morale. Hein.
Mais non, mais c'est pas ça.
Le Lynn Ramsay, elle sauve ses personnages en disant faut qu'il y ait une vie pour les enfants maltraités, qui ont été malheureux. Ça, c'est une chose. Pour le Lantimos, je le trouve extrêmement dur. Il y a quelque chose d'extrêmement brillant et aussi de farceur. Il joue avec l'idée
du
cinéma.
Moi, ça ne m'a pas fait rire du tout, le Lantimos. Excuse-moi, mais alors pas du tout.
Il pousse des gens jusqu'à l'extrême et il les regarde, mais il les regarde avec... comment dire, il n'est pas acide quand il les regarde. Il regarde, il dit jusqu'où peuvent aller des êtres humains posés des racoleurs.
Allez, j'ai encore non, s'il vous plaît, j'ai encore une question à vous poser. Il est 20h53, vraiment l'émission va se terminer. Je rappelle la Palme d'Or ici au Festival de Cannes, qui est allée au film The Square du Suédois Ruben Östlund. 120 battements par minute de Robin Campillo, qui est un film qui a reçu le Grand Prix du jury. Et enfin, Zvaginsev, Loveless, Faute d'amour, qui a reçu, lui, le prix du jury. Trois films inter. Et je voudrais, avant qu'on se quitte, quand même vous demander aux uns et aux autres ce qu'a été, moi j'en ai un aussi, votre coup de cœur dans les sections parallèles, dont on n'a pas parlé ce soir, puisque c'était la compétition officielle. Donnez-moi un titre qui vous a ému, bouleversé, et peut-être même que vous auriez voulu voir apparaître dans la compétition officielle, Daniel.
Bouleversant, j'ai pleuré du début à la fin tellement c'était beau. Le film d'Agnès Varda, Visage, Village.
Village.
Voilà.
Oui. Qui a eu le Grand Prix. On n'a pas annoncé au palmarès, j'ai pas
compris. Le Grand Prix SACD.
Il a eu le Grand Prix L'Œil d'Or, du plus grand documentaire du festival, créé par Thierry Frémaux pour rehausser. Or, je n'ai pas vu sur le, ce soir.
Là, je vous demande une fin d'émission gentille, heureuse, œcuménique. Donnez-moi simplement
c'est une splendeur. C'est une promenade à travers la France avec JR, l'installateur, le photographe, qui met des grandes photos sur tous les bâtiments. Et c'est une merveille d'humanité.
Et qui sortira très bientôt,
d'ailleurs.
Cœur de section parallèle. J'allais le faire.
Ah, je suis désolée.
De Mathieu Amalric.
Très beau film où, je dois dire.
Film impossible à faire.
Impossible à faire.
Et qui l'a fait. Magnifique. Et elle, Jeanne Balibar, est extraordinaire dans ce rôle-là. Enfin, c'est elle et c'est pas elle. Et on s'en fout. Enfin, c'est magnifique. Ce qu'elle fait est absolument excellent.
J'ai bien connu Barbara. On a vraiment l'impression. C'est d'une justesse, d'une fidélité à ce qu'elle est. Alors que c'est le contraire du biopic. C'est formidable. Allez, on cite vite.
J'en dis deux. Je ne peux pas faire autrement. Barbara et Agnès Varda.
Voilà. Parfait.
Premier film présenté à la Semaine de la Critique s'appelle Petit Paysan d'Hubert Charuel avec Swann Harlow, comment traiter du drame de l'épidémie dont sont victimes les bovins et ces troupeaux qu'on est obligé d'abattre à travers un film qui épouse le polar et la comédie pour dire justement cette tragédie inéluctable. C'est formidable. Petit Paysan, Hubert Charuel, un premier film Semaine de la Critique.
Qui sortira bientôt ?
Qui sortira sans doute à la rentrée et vraiment on en reparlera parce que grosse et vraiment merveilleuse surprise.
Michel ?
Alors moi c'est le Grand Prix du Certain Regard, le film iranien, Un homme intègre de Mohammad Rasoulov, qui est un film extraordinaire, qui aurait dû être vraiment en compétition, digne de Faraday, et qui a été unanimement, telle personne n'a compris son absence en compétition. Donc c'est un film absolument formidable qui va sortir à la rentrée.
Je me réconcilie avec Michel parce que c'est effectivement un des grands films de
Tête.
Tu n'es pas brouillé vraiment.
Jamais.
On peut pas être brouillé avec Michel.
Il y a les œufs qui sont brouillés.
T'es en pleine forme ce festival. T'as fait du bien, Michel. Je rappelle que nous parlerons aussi dimanche prochain, donc de films qui étaient au Festival de Cannes dans Le Masque et la Plume. Nous parlerons du film de François Ozon, La Mandou. Nous parlerons du film d'Arnaud Desplechin, Les fantômes d'Ismaël. Nous parlerons du Rodin de Jacques Doyon avec un Vincent Lindon qui a été oublié aussi du palmarès. Et enfin de L'amant
d'un jour de Philippe Garrel. Évidemment, je vous remercie tous, Sophie Avon, Eva Bétan, ce qui n'en ira pas de palmarès du Festival de Cannes, Xavier Le Herpeur, Daniel Eman et Michel Simon pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Festival de Cannes, au Palais des Festivals, même à la technique, il y avait David Federman et toutes les équipes que je remercie de Radio France à Cannes, et particulièrement de France Inter, qui ont fait ce suivi formidable du festival depuis son premier jour. La réalisation était signée David Jacubovies et Jérôme Chélius. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu jeudi prochain, jeudi 1er juin. Je vous attends nombreux à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une qui sera consacrée au cinéma, l'autre au théâtre. La semaine prochaine, on parle donc encore de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter. Évidemment, un peu de pub.
C'était le Masque et la Plume au Festival de Cannes avec Air France, partenaire et transporteur officiel du Festival de Cannes depuis 1980. À très vite pour un nouveau voyage.